L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Les évadés du sport sur Radio Évasion, c'est maintenant. Une fois par mois, le mercredi, on retrouve Fred Sévaer qui anime ce rendez-vous avec moi. Mais cette fois-ci, Fred n'est pas avec moi en studio, pas d'inquiétude, puisque nous avons enregistré cette émission ce mardi. On retrouve Fred d'ici quelques minutes avec son invité Patrice Salin, où il sera question de plein de sujets. Les ultra-brestois, son amour pour le stade Brestois 29 et l'avenir du stade Francis Leblay. Mais avant cela, on retrouve Hugo pour le résumé de l'actualité sportive du week-end.
Les évadés du sport sur Radio Évasion. Hugo Lebeuz.
Bienvenue sur Radio Évasion, vous écoutez Les évadés du sport, votre flash autour de l'actu sportive bretonne. Au sommaire de ce nouveau flash, le maintien validé du stade brestois et le FC Lorient qui lutte toujours pour l'obtenir en Ligue 1 de football. Une saison bien loin des attentes qui se poursuit pour les Béliers de Quimper en Pro A de basket. Et la très mauvaise forme du RC Van en Pro D2 de rugby. On débute ce flash en évoquant la fin de saison de Ligue 1 pour Brest et Lorient. De leur côté, les Tisefs ont validé mathématiquement leur maintien dans la division la saison prochaine. Après deux succès consécutifs face à Lyon et Metz, ces deux victoires permettent aux hommes de Michel Derzakarian de s'offrir une fin de saison sereine, marquée par le retour en forme d'Irvine Cardona et des prestations de plus en plus encourageantes pour la recrue hivernale Youssef Belaïli. Le FC Lorient, quant à lui, va encore devoir batailler pour atteindre ce même objectif. Après la gifle reçue à Rennes 5-0, les coéquipiers de Julien Laporte devront réagir ce dimanche face à Reims s'ils ne veulent pas voir le barragiste Saint-Etienne revenir à égalité de points. Place au basket et à la Pro B. Les Béliers de Quimper ont enchaîné deux défaites de rang, dont une très lourde à domicile contre Boulazac sur le score de 80-106. Ces deux revers, symbole d'un manque de régularité pour les joueurs de Laurent Foirest, privent Quimper de la lutte pour la montée envisagée en début de saison. En dépit de grandes ambitions, l'UJAP pointe aujourd'hui à la 15e place du classement avant de défier la Lanterne Rouge Rouen ce vendredi soir. Parlons rugby. Le RC Van a enchaîné 5 défaites de suite. Cet enchaînement de contre-performances, à l'image d'une saison en dents de scie, n'empêchera pas les hommes de Jean-Noël Spitzer de se maintenir en Pro D2 grâce aux 51 points acquis auparavant. Malgré tout, les Morbihanais restent très éloignés de leur rêve initial de top 14. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash des évadés du sport. On se retrouve bientôt sur Radio Évasion et je vous laisse en bonne compagnie avec Pierre-Yves et avec Fred.
Et tout de suite, après le flash d'information de l'actualité sportive du week-end avec Hugo, on retrouve Fred et ton invité.
Oui, bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Pat et on va essayer de comprendre ce qui fait un supporter de foot dans le cœur d'un Celtic Ultra de Brest. Bonjour Pat.
Bonjour Fred, bonjour Pierre-Yves.
Bon alors merci de nous recevoir Pat, puisqu'on a un petit peu délocalisé.
Ah oui, c'est bien ça, c'est ça fait de la radio à domicile.
Ouais, c'est chouette. Hein.
On joue à domicile en fait.
Alors, faut faire attention, faut pas que Patrice, si vous écoutez Radio Évasion, là vous devez reconnaître un peu la voix, faut pas que Patrice prenne ça comme une habitude, c'est exceptionnel, ouais, ça ne se reproduira pas.
C'est pas de blabla.
Non, pas aujourd'hui.
C'est pas l'instant C.
Non,
c'est
plus.
Monsieur Seb, non il est pas là, bon.
Pat, toi, tu fais partie des Celtic Ultra, mmh. Tu vas parler en ton nom aujourd'hui.
Oui, absolument, je ne parle pas pour le groupe. Hein.
Mais en tout cas, tu vis Stade Brestois, mais pas que, hein. Tu as plein de passions dans la vie. La radio aussi, on a entendu Pierre-Yves en parler. Moi, je voulais te demander déjà, en fait, dans ta vie, dans ton quotidien, c'est quoi être supporter du Stade Brestois?
Alors, est-ce que je vais pouvoir l'expliquer? Parce que c'est tellement dans mes gènes et dans mon sang que la réponse est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Moi, je suis né, en fait, avec le Stade Brestois, puisque mon papa jouait au Stade Brestois. Il a été cadet de l'Ouest avec le Stade Brestois. J'ai grandi près du stade de l'Armoricaine. donc à Saint-Marc. J'étais à 50 mètres, mon école était à 10 mètres, 20 mètres de l'entrée de à l'époque, ce qu'on appelait les secondes, aujourd'hui la tribune plein ciel, l'école du Paris, là dans l'angle, derrière la tribune. Et donc j'allais évidemment, tout gamin, mon papa m'a amené au stade à l'âge de 5-6 ans. Et mon papa était aveugle, alors du coup il était devenu aveugle et je lui racontais le match, voilà, à papa. Et il me demandait pas ce qui se passait, mais je lui expliquais ce qui se passait. Il entendait, lui, alors il voyait des ombres un peu, il n'était pas complètement aveugle, il avait la maladie de Leber, mais et je lui racontais tout enfant ce qui se passait sur le terrain, quoi.
Et voilà. Je crois que même c'est une histoire de famille, puisque les enfants aussi le suivent derrière.
Oui, oui. Ouais, c'est une histoire de famille. Ma maman est partie en 2018, on l'a enterrée avec un drapeau du stade. Elle avait son portrait dans la tribune des Ultras. Le match d'après son décès, c'est une histoire de famille. J'ai un oncle qui était supporter des Bleus de France, donc de l'AS Brestoise, et mon père était fan du Stade Brestois. Et du coup, c'est de génération en génération, finalement. Oui, t'as raison, Fred. Mon papa jouait, ma maman allait au match aussi. Même une fois que mon papa est décédé, elle continuait à aller au match. Mes enfants vont au match. Mon fils a été président des Celtic Ultra. J'ai un beau-fils ténor qui est très connu dans la tribune RDK, comme l'un des leaders de la tribune et des Celtic Ultra. Mes filles vont au match. J'amène mon dernier au match. Comme j'ai eu 6 enfants, j'ai des potes chez les UB, je vais au match avec les UB, on est dans les vieux maintenant de la tribune RDK, et puis j'en ai fait mon métier, hein, puisque j'étais journaliste, voilà. Et j'ai suivi le Stade Brestois pendant près de 25 ans.
Ouais, moi je voulais te poser une question par rapport à ça, justement. Ouais. Comment tu as fait pour avoir quelque part deux casquettes, parce que la casquette de supporter, tu l'enlèves jamais finalement.
Pour être impartial, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Si, bah justement, je l'enlevais là parce que du coup, il fallait que je fasse la part des choses. J'étais obligé. Je peux pas faire autrement. C'était mon métier. Donc, alors, je dis pas que je souffrais pas intérieurement. Hein. J'ai souffert sur des matchs à l'extérieur et tout. Mais j'ai jamais confondu. Ouais,
c'est sur quelle période que t'as couvert en tant que journaliste pour le Télégramme
le Stade Brestois.
Ouais.
De 93 à 2018.
Ouais, donc t'as vécu des beaux moments comme des tout pourris
ouais.
aussi.
Ah oui, je suis passé de la CFA à la première division, moi. La copine disait que j'étais un journaliste hooligan. Et j'ai toujours fait la part des choses, j'ai jamais fait de bêtises, j'ai toujours été juste. Et je voulais absolument, c'est un métier, journaliste. Quand t'as une carte de presse bleu, blanc, rouge, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais tu sais, quand on est journaliste pour un journal, le Télégramme ou je sais pas, la Voix du Nord ou le Journal Sud-Ouest, on est toujours un peu fan de l'équipe qu'on suit. Hein, faut pas, je crois qu'on est tous un peu comme ça. Hein.
Tu l'as observé aussi chez d'autres collègues journalistes, quoi.
Bien sûr. Les premiers supporters. Mais après, il faut faire attention. Voilà. Alors,
moi, j'ai justement, parce que la dernière émission, c'était sur le football gaélique. Et il y avait cette donnée que, en fait, en football gaélique, si tu veux jouer pour un club, bah, tu joues dans le club où tu as commencé, d'où tu es né, et normalement, tu n'en changes pas. Et c'est pour toute ta vie. Alors, est-ce que pour être supporter du Stade Brestois, il faut être né à Brest? Est-ce qu'on peut être supporter d'un club dans une ville qu'on ne connaît pas?
Alors. On peut supporter un club d'une ville qu'on ne connaît pas où on n'est pas né. Moi, je supporte un club qui s'appelle le St. Pauli, un club d'Hambourg, en Allemagne. Ma maman avait des origines allemandes, etc. Ouais, l'Hambourg, c'est une ville que je connais bien. Mais tu ne ressens pas les mêmes choses dans tes tripes et dans ton cœur. Ce sera jamais pareil. C'est-à-dire que le Stade Brestois peut perdre un week-end. Je vais en être malade. Pas bien, je vais balancer mes lunettes contre le mur. San Paoli peut perdre, que ça me fait. Je suis déçu, mais c'est sans plus, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que les footix, je suis pas fan du mot forcément, mais enfin pour.
Tu peux dire ce que c'est un footix.
Un footix, c'est un supporter qui n'habite pas dans la région et qui va aller supporter des clubs un peu plus faciles à supporter, comme les gros clubs, les clubs qui gagnent tout le temps.
Supporter de la dernière heure aussi pour footix.
Supporter de dernière heure, hein,
ouais. Non, tu vois, supporter de la dernière heure. Quoi.
Ah oui, être opportuniste un petit peu dans le supporterisme.
C'est ça, voilà,
ouais, c'est ça. Et du coup, je sais, moi, profondément, intimement, que ce ne sera jamais pareil. Ils ne ressentiront jamais ce que nous, on ressent pour un club, pour le club qu'on supporte depuis l'enfance. C'est impossible.
Les supporters des autres clubs, ils sont rivaux ou pas?
Tu veux dire...
Les ultras des autres clubs de Ligue 1, par exemple, c'est des rivaux ou c'est des partenaires?
Oh,
je fais référence à l'actualité aussi parce qu'on en parle souvent.
Bah, ce qui s'est passé là avec les Nantais, c'est pas très jojo. Hein.
Ouais, tu peux rappeler.
Il y a des amitiés. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que des Brestois, des ultra-Brestois ont envahi la pelouse, quelques-uns.
Ça se fait pas, on rappelle, hein, c'est interdit.
Non, c'est interdit, puis bon, il faut pas le faire, parce qu'on sait qu'on pénalise. Voilà, mais bon, moi, je sais pourquoi. Et je veux pas dire, il y a 30 ans en arrière, j'aurais peut-être fait la même chose. Hein. Mais en fait, les Nantais ont brandi un drapeau des ultra-Brestois, un drapeau qui appartenait à JP. Et c'était le soir de l'hommage à JP qui est décédé il y a quelques temps. Et ils avaient volé ce drapeau à JP sur un match amical à Saint-Brieuc entre Nantes et Brest. Et il y avait eu des photos, des vidéos, machin. Et les gars de Nantes savaient qui était JP, etc. Donc, durant cet hommage, ils ont brandi le drapeau volé à JP, ce qui a fait dégoupiller complètement certains mecs. Et ce que je comprends... Je cautionne pas d'entrer sur la pelouse et tout, mais il y en a qui étaient complètement craqués, quoi, et c'est terrible parce que ce qu'on fait les Nantais, ça se fait pas. Il manque de respect total pour Juppé et puis pour ça, c'est pour un homme mort, si tu fais pas ça, quoi, c'est pas possible.
C'était une provocation.
Provocation, puis c'est un groupe qui a coutumier du fait quand même, quoi. Bon.
L'histoire, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et moi, je me posais la question, parce qu'on parlait de banderoles tout à l'heure. Donc, vous passez des messages donc pour soutenir l'équipe. Mais est-ce qu'il y a des messages en particulier que vous portez, vous, en tant qu'ultra ou individuellement, et que vous passez comme ça? Et quels sont vos liens avec le club, justement? Est-ce que le club vous permet des choses, vous interdit des choses, a besoin de vous? C'est une question tiroir un peu, mais...
Moi, je ne sais pas... Je peux répondre que pour moi, que membre, etc., ou sympathisant d'un groupe ultra. Après, il y a des échanges avec le club, hein, que ce soit surtout les gars de la sécurité, par exemple. Je pense à Bruno Pabois, Sylvain, tout ça. Bon, c'est des gens très sympathiques et qui font très bien leur travail au Stade Brestois. Il y a une vraie bonne relation, je pense, entre les ultras et Bruno Pabois et toute la sécurité du Stade Brestois. Il y a un vrai échange, en tout cas, d'après ce que je sais. Et ça se passe plutôt bien. Après, souvent, les messages qui passent, bon, l'autre fois, c'est l'histoire de la tribune RDK qu'on ferme, c'est des abonnés qui n'ont même pas pu aller au match parce qu'ils n'ont pas pu se procurer de billets. Enfin,
suite aux incidents qu'il y avait eu avec la banderole.
La tribune a été fermée, il a fallu qu'on achète un autre billet quelque part. Là, je pense que ça a gâté un petit peu les relations entre le club et ça va les gâter un petit peu quand même. Hein.
Est-ce que vous avez un pouvoir politique dans votre action?
Alors, à Brest, en tout cas, les groupes se disent apolitiques. Après, chacun a ses idées. Il y a beaucoup d'amalgames, en fait, qui sont faits. C'est compliqué. La presse a écrit un papier dernièrement comme quoi un ancien président des CU votait extrême droite, etc. Ce sont des trucs qu'ils ont chopés. La question n'a même pas été posée à la personne en particulier, quoi. Et du coup, tu stigmatises tout un groupe, quoi. Le groupe des Celtic Ultra n'est pas du tout à droite ou à extrême droite. C'est complètement faux, quoi. C'est complètement faux, quoi. C'est apolitique, tout simplement.
Non, c'est ça. Après, il y a des démarches individuelles.
Mais bien sûr. C'est comme dans toute. C'est une micro-société. Hein. C'est chacun. Mais il n'y a pas du tout. Les deux groupes brestois ne sont pas politiques.
Il y a des valeurs, peut-être, alors.
Les valeurs sont celles de l'amitié, de la camaraderie et puis de l'amour d'un club, quoi. Après, c'est tellement difficile à comprendre pour quelqu'un qui.
Bah, tu parles de politique, mais t'as évoqué aussi le FC Sampaoli.
Oui, mais en mon nom, Pierre-Yves, du coup.
Ouais, justement, ouais. Je voulais savoir.
Ah bah, le FC Sampaoli, c'est un club qui lutte contre toutes les discriminations, oui. Ouais. Et c'est un club qu'on qualifie de très à gauche, quoi. Très extrême gauche.
Et ça va, le classement est bon là toujours ou...
Ouais, les résultats sont moins bien là, non?
Ah ouais.
Tout le monde n'est pas d'accord là-bas pour savoir s'ils veulent monter ou pas.
C'est vrai, ça crée le débat.
Bah oui.
Oui, parce qu'on change de dimension, quoi. Parce que le club, le FC Sampaoli est bien classé en Bundesliga 2, la deuxième division, voilà, quoi. Ouais. Et il y a possibilité de monter en Bundesliga.
En Bundesliga, quoi.
Ouais.
Tu vas des fois là-bas?
Ouais, j'y vais, ouais. Je suis allé souvent, ouais.
Combien de déplacements en tant que Celtic ou en tant que de Sampaoli?
Je suis allé souvent à Hambourg, mais en tant que Celtic Ultra, j'ai jamais... Enfin, j'ai jamais pu faire vraiment de déplacement en tant que Celtic Ultra, où je suis allé très rarement, parce que quand j'étais journaliste, je suis resté longtemps journaliste. Ouais. Donc du coup, j'allais pas non plus en parkage, et puis souvent, j'avais envie de passer du temps avec ma famille. Donc c'est-à-dire que quand tu passes beaucoup de temps dans un stade pour ton travail, tu vas pas... Mais j'allais, c'est vrai, parfois, j'allais en tribune ultra quand je travaillais pas. Mais bon, voilà, c'est... il y a beaucoup de gens lambda qui vont en tribune RDK. Il n'y a pas que des ultras en tribune RDK. C'est... Voilà. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne sont pas ultras, qui ne sont pas... Voilà. Bah, je sais pas, après, moi, je ne suis pas un ultra représentatif non plus du mouvement ultra. Hein, je sais pas, voilà.
Les Celtics ultra, là, ils se déplacent généralement.
Oui.
Et ça, est-ce que dans tous les stades de Ligue 1, quand il y a un déplacement de Brest, on trouve des
oui, des on trouve des Celtics ultra, on trouve des ultra brestois, on trouve l'Hermine 29 aussi. Je pense à Benoît, tout ça, avec l'Hermine 29 qui supporte depuis très longtemps le stade brestois. Ça, parler de l'Allemagne. Le football en France n'est pas aussi culturel qu'il peut l'être en Allemagne, par exemple. En Allemagne, c'est énorme, énorme. En deuxième division, tu as des stades qui sont... je voyais Schalke qui est descendu il y a 2 ans maintenant, je pense. C'est le stade est plein en D2 comme en D1. Quoi. C'est 50 000. Sampaoli, c'est 30 000 personnes.
Il n'y a pas de culture foot en France.
Elle n'est pas aussi élevée qu'elle puisse être en Allemagne ou... Après, j'hésite pour les autres pays. L'Angleterre, ça a changé un peu, l'Angleterre. Ils ont quand même une... Ici, ils ont une culture foot plus forte, je pense, plus ancrée dans les familles, les clubs, etc. En France, il y a moins... La culture foot est beaucoup moins forte qu'elle peut être en Allemagne ou en Angleterre, ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Les gens en Allemagne, ils vont en famille. Il y a plus de respect pour les ultras. Il y a un certain mélange. Il y a des antagonismes aussi, bien sûr, entre les clubs, mais... On vit vraiment le foot aussi à fond, à fond, à fond en Allemagne. C'est incroyable.
Parce qu'ils ont des beaux stades, tout neufs.
Ouais, pas tout neufs. Ils ont des stades rénovés aussi.
C'est le cas à Brest. On a un joli stade, non?
Magnifique stade.
Ouais. Et il y a un projet.
C'est Olivier Dalloglio qui a dit que c'était un stade mythique.
En plein cœur de la cité.
Ouais.
Et il y a peut-être un
projet en cours. Et c'est de plus en plus rare.
Et il y a un projet en cours qui peut peut-être remettre en question le fait que le stade soit au centre-ville. Oui, t'en penses quoi?
Je suis contre.
T'es contre.
Moi, je veux rester à Francis Leblay, bien sûr. Ouais.
Pourquoi?
Alors, je pense qu'il ne faut pas que je fasse parler mon cœur quand je parle de ça, parce que ce n'est pas un argument qui peut tenir très longtemps. Parce que déjà, bon, il y a pour tout un tas de raisons. Le stade du Fruit de Vin pourra accueillir déjà moins de public populaire, puisque ce sera 10 800, j'ai les chiffres, hein, j'ai 10 800 places pour un public populaire. Il y aura une tribune de VIP de 4 200 places, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une tribune VIP, tu prends la tribune Foucault, 5 minutes avant la fin de la première mi-temps, tu as les gens qui commencent déjà à quitter la tribune Foucault et aller dans les salons VIP. Au bout de 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, la tribune n'est toujours pas remplie. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent au stade pour aller manger des petits fours et boire du champagne. Je résume un petit peu comme ça. Mais 10 000, c'est-à-dire qu'on va changer de stade, on va quitter Francis Leblay pour aller dans un stade qui va accueillir moins de monde, moins de gens concernés par le supporterisme, moins concernés par le club, moins désireux d'encourager leur équipe. Ça me paraît paradoxal, et puis surtout aujourd'hui il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas de discussion. Moi, j'aimerais bien qu'on nous propose un projet sur le papier de rénovation de Francis Leblay. On en est où avec ça? On ne sait pas. Bah,
ça fait quand même presque pas loin de 40 ans, je crois, qu'on en parle quand même d'un nouveau stade. C'était dans les tuyaux depuis longtemps.
On avait reçu M. Gestin dans l'émission. Ah, oui. Aux évaluations.
Michel Banner, je crois, en parlait déjà à l'époque, dans les années 70.
C'est un peu difficile de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de discussion quand même.
Il n'y a pas de discussion, si tu veux, au niveau débat public. On ne pose pas la question. Par exemple, il y a 8000 abonnés au stade brestois. Est-ce qu'on a posé la question aux abonnés de savoir s'ils voulaient quitter Francis Leblay ou pas? Non.
Vous avez créé un collectif, Francis, sur Instagram. Tu es actif dans ce collectif.
Ouais.
Vous êtes de plus en plus nombreux. Et l'idée, c'est de proposer... des solutions, être source de propositions, avec cette idée que ça va pas de soi, qu'un nouveau stade, c'est la solution.
Non. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a plusieurs sujets à aborder. Il y a déjà quel sera le modèle économique du nouveau stade. pas trop parler non plus, l'état des lieux vraiment de Francis Le Blé. Il faudrait un état des lieux véritable de Francis Le Blé. Et de savoir poser la question à des architectes, à des gens compétents. Nous, on n'est pas architectes, on n'est pas compétents pour rénover un stade. De poser vraiment la question, est-ce que c'est possible ou pas possible, connaître, définir véritablement une jauge du stade de foot qu'on veut. On sait que ça coûte cher quand même de faire un nouveau stade aujourd'hui. Ça peut être très vite un gouffre financier incroyable. On parlait des ultras, etc. Comment ça va se passer si, par exemple, les gens se retrouvent à match à 17h le samedi, tu te retrouves avec les gens qui vont chez le Roi Merlin, Ikea, acheter une tortue chez Jardin.
Il n'y a pas des escargots en plus là-bas au front.
Juste les escargots. Et si il y a un match de foot le samedi où les gens vont dans les magasins et qu'il y a une bagarre à 400 ou 500 mètres du stade, comment ça va être ça? Il y a plein de choses à dire, mais on peut parler aussi des couloirs écologiques. Là, on va détruire aussi quand même un couloir écologique.
Je parlais d'escargots pour ça parce qu'à Plougastel, il y avait eu un projet de fin d'entraînement il y a des escargots très rares qui étaient là et qui ont sauvé
l'escargot de Quimper.
C'est ça.
Ouais. Et il y a plein de questions qui restent aujourd'hui sans réponse, et je trouve qu'on devrait plus impliquer Brest, le public brestois, le public de Francis Le Blé, les supporters du stade brestois, mais les gens qui vivent à Brest aussi, parce qu'on parle de, c'est une sorte de gentrification dans le centre-ville, les petits magasins, les commerçants, etc. se plaignent de perdre des gens, que les centres-villes deviennent des villes mortes, on met tout en périphérie, tout ça. Bah, c'est la vraie question là aussi aujourd'hui. Pourquoi on irait enlever un poumon économique, un poumon footballistique dans un stade qui a une âme, une histoire? C'est pas au stade du Foot-Vin qu'on va recréer du jour au lendemain une âme ou une histoire. Hein. Ça va pas être du tout la même musique. Hein.
Du coup, concrètement...
Je parle un petit peu dans tous les sens, mais
concrètement, vous attendez peut-être un retour du coup du club pour qu'il y ait une discussion, pour qu'il y ait,
pour l'instant on attend de la saison se termine là, ça y est, Brest est sauvé, bravo, c'est super. On va déjà essayer de faire le point, de voir on aimerait bien savoir déjà chez les, je sais que les ultras sont logiquement intéressés d'aller dans un nouveau stade pour avoir plus de place, plus de confort pour faire les tifos.
Il y aura une petite rénov de la tribunaire des cages.
Ouais, elle change, ouais. Elle va augmenter. Ils vont la changer carrément, ouais.
Là, c'est pour la saison prochaine.
Ouais, ouais. C'est pour la saison prochaine. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a mis des personnes en situation de handicap derrière un but. C'est déjà difficile pour une personne qui est dans un fauteuil de suivre un match de foot, et on va les mettre dans... Il y a des logiques que je ne comprends pas et des rénovations que je comprends absolument pas. Dans cette tribune-là, je sais pas pourquoi. On a l'impression que c'est un prétexte, en fait, pour dire, vous voyez, les handicapés sont derrière les buts, au lieu d'essayer de centrer les handicapés comme on centre les gens dans les loges. Pourquoi ne pas essayer de mettre les personnes en situation de handicap au centre du terrain? Il y a plein de choses que je ne comprends pas et dont on ne peut pas débattre de toute évidence. Il n'y a pas de questions posées. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de passage en force comme ça, quoi. Ça me plaît
sur,
pas
sur plusieurs aspects du coup sur, là tu parlais de ce, de
ah oui
ce...
parce que la question c'était quoi au départ?
Non mais justement, est-ce que vous aimeriez aussi qu'il y ait un petit peu
moi je comprends les gens qui veulent un nouveau stade, hein. Moi je suis pas, disons que je préférerais rester à Francis Le Blé, mais si on nous dit que c'est pas possible de rénover, etc., pourquoi dans ce cas là ne pas étudier la question? Mais c'est enlever beaucoup de choses quand même. Parce que si Brest gagne des matchs aujourd'hui, c'est parce qu'on joue dans ce stade-là. Tu vas jouer à la Matmut au Mans, ou à Michel Darnano à Caen, ou au stade Océane au Havre, excusez-moi.
C'est sûr, comment ça leur a pas porté bonheur?
Non.
Et à Bordeaux aussi.
À Bordeaux, tu vois, les stades, ils sont à moitié vides. Les stades, ils ont pas d'ambiance. À Nice, ils ont perdu un magnifique, incroyable stade Duré qui avait une vraie âme. Regarde à Jean Boin aujourd'hui à Nîmes, ils se mordent les doigts d'avoir fait ses costières. Ils ont fait un super bouquin dernièrement sur Jean Boin à Nîmes, qui était un stade. Mais si Brest, c'est une petite équipe, c'est un petit club, c'est un petit budget. Si Brest aujourd'hui quitte Francis Le Blé, sportivement, je pense que ça va être très très compliqué. Ah, et je répète, Médalo Guillaume l'a bien dit, c'est un stade mythique. On va pas jouer à Brest comme tu vas jouer au stade de Lyon, Décines ou des trucs comme ça. Enfin, je manque pas de respect aux autres fans et tout, hein. Je veux pas, hein, mais c'est pas ça. Mais
Non, je pense que ton message est bien passé. Et donc, tu invites le stade à ouvrir une concertation populaire. Et j'ai envie de dire...
Déjà, poser la question à ses abonnés, en tout cas. Ouais. Ce serait déjà une bonne chose. Ouais.
Et puis, ton discours semble plein de sagesse, donc à écouter, je pense. On s'était dit aussi que, parce que l'émission touche à sa fin, on s'était dit aussi qu'on parlerait un petit peu d'autre chose que de foot, ou en tout cas, que tu parles aussi de toi, de tes engagements en dehors du foot.
Mes engagements, alors c'est toujours contre le handicap hein, et pour la marche. Je vais effectivement tenter un gros défi au mois d'août prochain pour mon association Hémophile Obradoiro et Plougastel sur le Stevenson, le GR70. Je vais marcher, je vais essayer de récupérer des dons pour offrir une jouellette à la commune de Plougastel. Une jouellette, c'est, tu vois ce que c'est, Fred, c'est,
je vois très bien ce que c'est.
Ouais. C'est un peu comme une chaise à porteur avec des roues pour permettre aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se servir de leur membre inférieur et de s'asseoir en fait dans la jouellette et de pouvoir aller sur les chemins de la, par exemple de la presqu'île de Plougastel. Il y en a tellement, c'est magnifique. Et donc ça se passe au mois d'août, je vais marcher au mois d'août. Et on organise le dimanche 15 mai à Sainte-Christine, à Plougastel, autour de la chapelle Sainte-Christine, une après-midi concert avec Mac Adam, Delgado Jones, la Lucha Libre et Soy Sibéril.
Qui est ce groupe de la Lucha Libre?
Ah oui, c'est étonnant ça. Ça vous avez dit quelque chose, Kéry?
Je ne sais pas, toi.
Ils ont fait une chanson sur Bruno Grugy, un hommage à Bruno Grugy. Et bah Bruno Grugy sera là ce dimanche 15 mai à Sainte-Christine.
Il vient de t'envoyer un message, non?
Il m'a envoyé un message, ouais. Il sera là. C'est pas pour ça, mais il m'a envoyé un message, ouais, parce que je crois que c'est le gars que j'ai interviewé le plus de ma carrière. Je pense que c'est Bruno Grugy. Et il est le parrain du défi sur le chemin de Stevenson, ouais. Bruno Grugy. Merci. Donc il sera là le dimanche 15 mai.
Ben voilà, faut qu'on arrête l'émission à un moment donné.
Moi j'écoutais en fait.
Tu étais inspiré. Non mais fais gaffe. Il faut que tu écoutes du coup son émission.
Ben complète. Mais je serai présent, je pense, à Sainte-Christine bientôt.
Ah c'est gentil. Merci Fred.
Si je peux, je suis là.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère. Labourer les circuits courts, plonger au fond.